Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du problème dont vous avez souligné par rapport à la position du NDP vis-à-vis l'oléoduc Energy East?
Bien, c'est simplement, c'est pas nécessairement le NPD, là, mais le problème, c'est que dans l'Ouest canadien, il y a une dénonciation qui se fait en disant que le pipeline est dangereux, a des très grands risques au niveau du déversement. Le sentiment qu'on a, c'est que y a les communautés, les municipalités, les acteurs se sont prononcés en Colombie-Britannique très clairement défavorables. Mais le problème qui existe, c'est qu'au Québec, on a fait la même chose. Et on trouve très triste d'entendre un double discours où on dit que dans l'Ouest canadien, effectivement, il y a un grand risque, c'est inacceptable et le pipeline ne doit pas passer. Mais au Québec, où il y a le même type de risque, le même type de danger, on trouve que c'est la meilleure méthode. Donc, c'est pour ça qu'on a fait de la dénonciation, puis on a mentionné que pour nous, c'est inacceptable, point à la lettre.
Est-ce que c'est un problème québécois ou canadien?
C'est les deux. C'est les deux. Je veux dire, on parle ici de dépendance. On parle aussi du fait que c'est des sables bitumineux. C'est une catastrophe totale de faire de l'exploitation pour le pétrole avec le sable bitumineux. Les conséquences environnementales sont incalculables. C'est vraiment pour nos générations futures. Déjà là, on devrait avoir une position ferme. La deuxième, c'est... beaucoup de partis politiques parlent d'alternatives au niveau des énergies, du pétrole. Mais quand c'est le temps de réellement s'asseoir avec les gens en économie, puis il y a beaucoup de gens en économie, moi j'en ai rencontré beaucoup sur la colline, qui sont intéressés de commencer à travailler dans une nouvelle direction. Mais pourtant, quand c'est le temps de mettre des actions concrètes, on les voit pas. Il y a des doubles jeux, il y a des relations qui se font. À un moment donné, c'est notre avenir qui...
À ce stade-là, de tout ce qui arrive avec cet oléoduc et puis la planification, d'après vous, quelles sont les options? Est-ce que c'est vraiment d'aller chercher un appui du peuple par une méthode politique grassroots? Qu'est-ce qu'on peut faire rendu là?
Bien, une des raisons pour laquelle nous, on a créé un nouveau parti, c'est justement ça, c'est de séparer et d'augmenter le pouvoir des gens, un, qui sont élus, donc une meilleure relation, un meilleur dialogue, et deux, d'augmenter le pouvoir des citoyens. Justement, force et démocratie, c'est la direction qu'on prend du fait même de notre existence et de notre création, à la base, on peut dire l'article 1. Mais c'est aussi, à partir du moment où une communauté n'est plus écoutée, autant au niveau des élections, la participation, sa capacité d'être écoutée, les gens on se retrouve à être des spectateurs et on n'a pas le choix de subir. On est au point, on dit souvent, il y a un problème. Non, la crise, ça fait longtemps qu'elle existe. Et le contrat social n'est plus valide. Il faut prendre le temps de s'asseoir puis dire, est-ce qu'on peut continuer dans la même direction, de toujours être dans les promesses et de ne pas être dans les écoutes? Les partis politiques sont centralisés sur l'objectif du pouvoir dans un but de peut-être changer des choses. Puis on se retrouve toujours dans une loterie où on espère que la personne ou le parti qui va être en place va amener des bons changements et on en subit énormément de conséquences.
Les auditeurs peuvent-ils se diriger envers des organismes ou des initiatives grassroots avec lesquelles Force et démocratie fait affaire?
Absolument. On a une belle publicité qui circule en ce moment qui ne coule pas chez moi. C'est un ensemble. Moi, j'ai été excessivement impressionné. C'est un ensemble d'organismes québécois qui prennent le temps, qui sont ni pour le gaz de schiste, ni pour le pipeline, qui veulent des alternatives au niveau des énergies. On est en dialogue avec eux d'une manière régulière. Donc oui, il y a énormément de gens. Il y a environ 70% de la population québécoise qui n'est pas du tout d'accord, selon les statistiques, avec le fait que l'oléoduc passe chez nous. Et ce n'est pas écouté. Et ces gens-là sont bien informés de plus en plus, c'est ce qui est extraordinaire pour répondre à votre question, par des organismes. Donc, effectivement, on reste en collaboration et nos portes sont ouvertes à travailler, même avec les partis. Moi, écoutez, si le NPD ou les conservateurs ou les libéraux viennent nous voir et disent, écoutez, on a compris l'approche, on veut travailler ensemble, on va changer la dynamique de ce qui est apporté sur la table, on est très ouverts de le faire. Donc, nécessairement, notre priorité, c'est les organismes, notre priorité, c'est les citoyens.
La prononciation du NDP, en quoi est-ce que c'est une menace ou bien une inquiétude selon l'idéologie un peu plus traditionnelle du NDP?
Bien, la raison, écoutez, moi, je peux parler de la raison pour laquelle je m'étais joint au NPD. Jack Layton m'avait beaucoup impressionné, parlait de réconciliation, de dialogue. Malheureusement, c'est pas l'impression que je vois. Et l'inquiétude que nous, on a, c'est de voir, justement, trois partis qui sont sur l'avant-scène, justement, sur le point d'être au gouvernement aux prochaines élections, prendre une position de zone grise sur un enjeu qui ne devrait pas l'être. Et En tant qu'élu, là, on représente l'intérêt des citoyens, on représente leur voix, on est là pour les défendre. Donc, à partir du moment où un parti politique se met dans une position, et là, le danger, de se prendre plus intelligent que la population qui dit non. Puis, écoutez, ça, c'est un enjeu, mais on peut extrapoler. On peut regarder dans le passé le nombre d'enjeux qu'on a vu passer comme ça. Et je pense qu'on s'attendait tous à ce qu'il y ait une amélioration. Depuis que je suis jeune, j'ai des frustrations. Je suis pas le seul. Et on s'attendait à une amélioration. Et on arrive sur la colline et on voit que, justement, il y a de la partisanerie, il y a des gangs qui jouent, qui sont pas à l'avantage des citoyens, mais pas du tout. Et on dit qu'on consulte, mais on écoute à peine. Puis quand c'est le temps de le traduire en politique ou en fermeté ou en gestes concrets, on le voit très peu. C'est sûr que gérer un gouvernement, ça demande énormément de travail. Mais c'est à nous, justement, en tant qu'élus, de prendre le temps de faire les choses correctement et de bien faire le travail, justement pour que les choses deviennent, pour que tous les facteurs, tous les programmes, toutes les décisions soient accessibles aux citoyens et puissent leur permettre d'intervenir. Parce que on, en tant que communauté, on subit dans nos régions, en tant que personne, on subit les conséquences de tout ce qui a été fait dans le passé. Et l'environnement est un élément clé pour notre avenir. Mm-hmm. Moi, je suis un papa, puis je trouve ça inacceptable. Qu'est-ce qu'on lui laisse? Bien, on joue sur les mots, on joue sur les ambivalences, on joue sur les zones grises. Mais à un moment donné, il va falloir dire non. Puis il va falloir avancer constructivement avec des solutions en disant non, il y a des choses qui sont inacceptables. Point à la ligne.
Justement, pourquoi, d'après vous, est-ce que la polémique du transport du pétrole tiré des sables bitumineux ne constitue pas une option malléable de stratégie politique dans le contexte de la politique, étant donné que les conséquences seront réelles?
Elles sont réelles en ce moment. Aux États-Unis, il y a deux pipelines. Il y en a un qui a eu un déversement près de, si je ne me trompe pas, c'est proche de Washington, ou en tout cas dans l'Est canadien, l'Est américain. Et ça fait 5 ans, si je ne me trompe pas, qu'ils font le nettoyage. Et sur les 5 ans, ça a déjà coûté 1 milliard. L'étendue de la contamination est immense. Donc, déjà ça devrait être un exemple de quelque chose qu'on ne peut pas accepter, là. Le niveau de risque, le niveau de danger à notre époque, sous prétexte de créer de l'emploi, il y a toutes sortes de manières de créer de l'emploi. Pourquoi les partis sont ambivalents? Est-ce que c'est, pour revenir à votre question, est-ce que c'est parce qu'ils veulent accéder au pouvoir? Je pense qu'il faut leur poser la question. Mais il est certain qu'un parti ou une entité politique ou des gens politiques ou des gens qui se disent représentants des citoyens devraient prendre le temps d'écouter ce que les gens ont à dire. S'ils ne le font pas, ben aux prochaines élections, ça sera aux citoyens de décider ce qu'ils veulent ou ils veulent pas avoir. On a un cynisme, on a les gens qui ne votent plus, on a des gens qui sont tannés, avec raison, et on le nourrit. Faut être ferme, faut s'expliquer, faut justifier, faut avancer. On peut pas être ambivalent parce qu'on espérait peut-être avoir le pouvoir. Ça fait aucun sens. Donc, est-ce qu'il y a une défense à une vue d'ensemble plus grande, plus globale, plus internationale? Peut-être. Mais justement, on est supposé d'être une nation, on est supposé être un peuple qui est basé sur le principe d'une meilleure vision. Il faut être capable de voir sur les 50 à 100 à 250 prochaines années. Il faut planifier en conséquence. C'est notre responsabilité collective. On n'a pas le choix. Ça fait 40 ans. Des fois, j'écoute des reportages qui datent de justement il y a 40 ans, qui parlent des enjeux qu'on a aujourd'hui puis sont supposés d'être réglés. Je ne sais pas si vous vous souvenez des films qui nous présentaient quand on était au secondaire puis montraient les catastrophes environnementales qui s'en venaient puis qu'est-ce qui se passait à travers la planète. Puis aujourd'hui, on se dirait, mon Dieu, c'est mieux, on fait du recyclage, on est plus à l'affût. Puis on est encore en train de débattre si ou non on devrait prendre un pétrole qui est excessivement sale, qui est de passage, puis qui a énormément de conséquences. Fait que moi, je vous poserais la question plus tôt, est-ce qu'on ne devrait pas justement, je répète, mettre le pied à terre, dire non, puis avancer, puis c'est rendu que même les gens d'affaires, il faut se demander qui écoute qui, parce que même les gens d'affaires reconnaissent que c'est un problème, puis qu'il faut qu'on avance autrement, parce que ça ne fonctionne plus. D'enrichir notre nation basée sur un élément aussi pollueur, aussi dévastateur, ne nous apporte aucun avenir.